g.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Faire l'amour.
Baiser.
Forniquer.
Faire crac-crac.
S'accoupler.
Niquer.
Coucher avec quelqu'un.
Pécho.
Croquer la pomme.
Fatiguer la salade.
Ouais, alors à part le dernier, toutes ces expressions font référence au sexe. Parce que oui, Pierre, on va parler de sexe.
Oh, mince, je pensais qu'on allait parler de cuisine.
Ouais, mais c'est ça le Labo des Savoirs. On mélange l'actualité, la Saint-Valentin, et la science, avec comme fil rouge la dernière enquête de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, sur la sexualité des Françaises et des Français, publiée fin 2024.
Nous enregistrons cette émission depuis la BU Sciences de Nantes Université. Merci aux équipes de la bibliothèque universitaire de nous accueillir et aux étudiants qui sont là dans le public.
Cette émission est une spéciale Saint-Valentin. Après le pénis scientifique, les menstruations et la virilité, on va parler de sexualité avec les bénévoles du Labo des Savoirs.
Et pour préparer correctement le sujet, Florian, hier soir j'ai revu mon film préféré, American Pie.
Ben, c'est super intéressant. Justement, les références telles que American Pie commencent non seulement à être datées, mais on se rend compte qu'elles ont véhiculé et continuent encore de véhiculer des fausses représentations de la sexualité.
Mince, j'avais pris plein de notes. C'est quoi la recette du coup de la sexualité sauce 2025?
Et nous avons envoyé notre fine équipe de cordon bleu de la vulgarisation enquêter sur les pratiques sexuelles du début du millénaire.
On va y aller chronologiquement avec Célie qui nous parlera d'éducation sexuelle, puis Lila nous partagera son sentiment sur l'impact de la pornographie.
Et pour finir, Julie nous parlera de l'asexualité et de l'abstinence, et enfin Nolwenn se penchera sur la sexualité des personnes âgées. Nous aurons pour fil conducteur le rapport sur la sexualité des Françaises et des Français publié en 2024 sous l'égide de l'INSERM. Pour information, la dernière enquête de ce type remonte à 2006.
Bon, déjà, la sexualité, c'est quoi? Parce que entre American Pie et le guide du zizi sexuel, je suis pas sûr d'être bien informé, moi.
Ouais, bah tu l'as dit, oui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse cette émission. On parle de comment on est intime les uns et les unes avec les autres, rapport à une attirance. Ici, on ne parle pas d'amour, ni de couple, ni de reproduction. On inclut toutes les formes de sexualité en termes de pratiques, de relations et de représentations. Petite précision avant de commencer, l'enquête nationale donne beaucoup de chiffres sous forme de moyenne.
Et oui, il est important de préciser que moyenne, ça ne veut pas dire normalité. Être au-dessus ou en dessous des moyennes, c'est ni bon ni mauvais. Il est inutile de se comparer à la norme, c'est important de garder ça en tête.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Est-ce que vous changez de garçon souvent?
Bon, dès que je suis avec un type, il me plaît et tout, et puis après je me lasse. Je sais pas, je recherche beaucoup d'affection, je recherche trop chez un garçon. Et je trouve pas, j'ai pas encore trouvé tout ce que je voulais.
Ici, c'est la grosse rigolade. Il y a une fille qui s'amène, tout le monde va se mettre à la draguer, à rigoler et tout. Puis il y a justement le problème des sentiments. Tout le monde a peur de révéler ses sentiments parce que c'est une question. Bon, ils veulent pas jouer au dur, mais ils veulent. C'est pas bien vis-à-vis des autres de dire à une fille oui, tu me plais, t'es jolie, j'ai envie de sortir avec toi. On va carrément lui dire sortir avec elle, il va coucher avec elle, puis une fois que ce sera fini, il lui dira de se partir, que c'est fini. Même avec des moments pour rigoler, des termes injurieux.
De toute façon, moi, pour moi, l'amour c'est beau. Moi, je trouve ça c'est très beau l'amour, de toute façon.
Ah ouais, bah, ça, c'est sûr.
On est né pour ça, de toute façon. Pour ça, avoir une famille et tout, avoir des enfants.
Pour toi, l'amour c'est avoir une famille, des enfants.
Ouais.
Et pour toi?
Ouais, moi aussi. Je rêve de faire un foyer. Avant, je me disais tout le temps que je me marierais pas jeune, et puis je crois que j'ai tellement envie d'avoir un foyer à moi, des enfants.
Oui, avoir un foyer, en quelque sorte. Alors, une femme, compte, peut-être des enfants, mais vraiment libre. Parce que j'ai vécu un certain temps.
Ne connaissant pas du tout ce que c'était, ça ne me touchait pas, ça ne me faisait rien, je ne comprenais pas pourquoi on devait avoir des rapports sexuels. Je comprenais pas, mais enfin, il fallait, c'était comme ça.
Je m'y attendais pas du tout, du moins que c'est... j'y pensais pas. Et l'ambassade c'est venu comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi.
Quand est-ce que tu as eu ton premier rapport sexuel ?
C'est relativement récent. C'était avec un garçon.
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
J'étais très déçu. Même dans tous les cas, les garçons se cachent, donc tout ceci est très rapide et je trouve que généralement, c'est... Enfin, les gens n'ont pas le temps de s'apprécier, finalement.
Tu n'as jamais eu de relation sexuelle avec une fille?
Oui, j'ai presque envie de dire malheureusement. J'en ai eu très envie, maintenant un peu moins, mais enfin, ça dépendra principalement de la personne. Car j'ai été très épris des filles, enfin, pendant un temps, et ensuite, disons que j'ai été un peu déçu. Et c'est ce qui peut-être également a fait que maintenant je suis uniquement sectarisé vis-à-vis des garçons.
André, qu'est-ce que tu crois que les filles et les garçons aiment d'une façon différente ?
Non, je pense pas du tout. Les filles sont plus attirées par tout ce qui est assez futile aux yeux des garçons, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire les caresses, les attentions, la compréhension. Je pense que là est la seule différence. C'est-à-dire que je pense que les garçons sont beaucoup plus terre à terre, en disant que s'ils se satisfont facilement, enfin, ils sont très vite satisfaits simplement parce que la fille qui est à côté est jolie ou un truc comme ça, quoi. Ça suffit. Pour eux, le plaisir est très primaire.
Est-ce que tu crois que c'est l'attitude très souvent des filles qui sont presque obligées de répondre aux désirs de l'homme ?
Enfin, moi, je pense que c'est souvent ça et c'est dommage. Parce que ça devrait être quelque chose qu'on, enfin, qu'on choisit, mais qu'on décide de faire ensemble, et pas parce que, un, on a envie, et puis parce que, bon, finalement, on l'aime quand même, alors si c'est le moyen de le garder, bon, bah, d'accord, enfin.
Je vois, moi, je sortais avec un garçon qui était très, très beau, qui était... Oui, il n'était pas intelligent, et lui, ce qui comptait chez les filles, c'était vraiment faire l'amour avec elle, et bien sûr, il me l'a demandé à maintes reprises. Bon, le jour où j'ai pas voulu, il m'a dit, bon, ben, tu veux pas, va-t'en, je vais aller voir... Je vais aller voir ailleurs, alors je vois pas tellement l'intérêt.
Et c'était un extrait des années 80, des archives de l'INA, où des adolescentes et des adolescents parlent de leur premier rapport sexuel. À cette époque, parler de sexualité, c'était pas aussi facile. Aujourd'hui, en 2025, ce sujet est au cœur des débats, notamment avec la sortie du nouveau programme scolaire.
Alors justement, il est temps de lancer la première chronique. Célie, toi, l'éducation, c'est ton truc. Tu as donc décidé de nous parler de l'éducation sexuelle à la française chez les enfants et les adolescents.
J'ai effectivement décidé de me pencher sur cette fameuse éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité. Elle a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps et a fait quelques polémiques entre les collectifs conservateurs d'un côté et les syndicats enseignants et les associations concernées d'autre part. Pour vous remettre un peu de contexte, je vous propose un petit voyage dans le temps pour mieux comprendre de quoi on parle exactement. D'après la chercheuse Yvonne Knie-Miller, en 96, le terme « éducation sexuelle » apparaît en 1914 et trois catégories de personnes s'y intéressent alors. Les médecins, pour la prévention des maladies vénériennes, les prêtres, pour limiter la divulgation des méthodes contraceptives, et les féministes, pour la protection des filles et des femmes. Entre 1918 et 1923, on avance un petit peu. La formation des instituteurs est complétée par des modules sur l'éducation sexuelle. En 1927, des sexologues en Europe, dont fait partie Havelock Ellis, un médecin britannique pionnier en sexologie, soulignent l'importance de l'éducation sexuelle dans le processus d'éducation des enfants, des adolescents et des adultes. Donc ce n'est pas du tout une nouveauté. Malgré tout cela, en France, l'éducation sexuelle reste sous l'influence de la morale traditionnelle et continue de préconiser l'abstinence sexuelle chez les adolescents et les adolescentes. Après la Deuxième Guerre mondiale, un plan de réforme de l'enseignement préconisait l'introduction de l'éducation à la sexualité dans les écoles, mais, roulement de tambour, il ne sera pas adopté. On attend donc les années 60 et la légalisation de la contraception en 1967 pour que cette éducation soit envisagée de manière plus sereine en milieu scolaire. On avance. En 1973, une circulaire, la circulaire Fontanet, est publiée pour noter l'importance de l'information à la sexualité. C'est une question de sémantique, mais ça fait couler un peu d'encre. Comment on différencie l'information à la sexualité de l'éducation à la sexualité ? D'autre part, cette information slash éducation reste malgré tout une affaire familiale, et l'école peut s'emparer de cette question qu'en cas de grandes difficultés de communication entre les jeunes et leurs familles. Et puis, les programmes sont toujours pas super clairs, même si globalement, on sait que c'est inclus au programme de biologie. Et puis arrivent les années 80, marquée par l'arrivée du virus du sida. Plusieurs textes voient alors le jour pour introduire l'éducation sexuelle à l'école, la circulaire Chevènement en 1985, et favoriser les relations entre les associations spécialisées et le monde de l'éducation. L'éducation à la sexualité est alors axée sur la prévention et la transmission du VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. Dans les années 90, on inclut dans l'éducation à la sexualité l'esprit critique à l'égard des stéréotypes, mais on ne parle pas explicitement de la pornographie ou de l'image de la femme souvent dégradée dans les médias. La lutte contre l'homophobie n'est pas non plus explicite, alors que la dépénalisation de l'homosexualité date de 1982 et qu'elle est retirée de la liste des maladies mentales de l'OMS en 1991. Et c'est comme ça qu'on arrive à 2001. On est encore là, après le bug de l'an 2000. Donc, depuis 2001, l'éducation à la sexualité est une éducation obligatoire, inscrite dans la loi. Elle doit être dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison de moins 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène. Plusieurs objectifs sont annoncés quant à ces séances. Il s'agit de répondre à des enjeux de santé publique, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles par exemple, mais également de répondre à des problématiques concernant les relations filles-garçons, les violences sexuelles, la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. 10 ans plus tard, cette éducation, bien qu'inscrite dans la loi et obligatoire, n'est toujours pas effective. Et ça peut se comprendre. Les enseignants et les enseignantes ne sont pas toujours formés à ces thématiques et ne sont pas toujours à l'aise pour aborder ces questions avec des enfants et des adolescents qu'ils et elles croisent quasiment quotidiennement. Et puis les moyens financiers pour faire intervenir des associations spécialisées sont assez restreints. Par ailleurs, beaucoup de termes et de notions font encore débat. Par exemple, l'introduction du concept de genre en 2011 dans les manuels scolaires va soulever beaucoup de questionnements et des débats parfois houleux au sein de la classe politique. Mais après plus de 20 ans d'attente, il est enfin là, le nouveau programme national. Il est construit en 2 étapes différenciées et complémentaires. Une éducation à la vie affective et relationnelle pour l'école maternelle et l'école élémentaire. Et une éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité pour le collège et le lycée. Le programme entre en application à la rentrée 2025. Je vous laisse le soin d'aller le consulter. Les références seront en description du podcast.
Merci Célie pour ces rappels. On comprend bien que ce n'est pas une question nouvelle et que la société s'y intéresse depuis déjà un bon bout de temps. Mais le dernier programme en date fait un certain nombre de pages. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans les grandes lignes, ce qu'il y a de nouveau ?
Alors, ce programme se décline en 3 grandes catégories. Se connaître, vivre et grandir avec son corps. Rencontrer les autres et construire des relations et s'y épanouir, et trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Pour chaque niveau, de la maternelle à la 2e année de CAP, les objectifs pédagogiques sont détaillés et des séquences sont proposées. Ces objectifs ont été construits en respectant les 8 concepts de base de l'éducation complète à la sexualité des principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, ça fait long, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit l'UNESCO. Avoir des objectifs et un programme, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les évaluer. Santé publique France, dans un dossier datant de janvier 2024, pointait du doigt les faibles moyens mis en œuvre pour suivre et évaluer les objectifs et ainsi avoir une idée claire de ce que ces séances apportent aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Alors oui, la mesure des connaissances est relativement simple, on est en milieu scolaire principalement et on peut donc facilement y faire des évaluations. Mais l'effet sur les comportements est plus difficile à réaliser et nécessite un temps plus long, un suivi complexe et des coûts associés élevés. Malgré tout, à l'échelle mondiale, l'UNESCO note une évolution de certains comportements entre une étude de 2008 et une de 2016. Il en ressort notamment que cette éducation a des effets positifs, je cite, « elle accroît les connaissances relatives aux divers aspects de la sexualité, aux comportements et aux risques de grossesse ou d'infection par le VIH et autres IST, et n'entraîne pas de hausse de l'activité sexuelle ».
D'accord, donc ça, ce sont des observations à grande échelle sur une grande population. Mais quels sont les bénéfices attendus de cette nouvelle éducation sexuelle ?
Alors, elle contribuerait à un recul de l'âge du premier rapport sexuel, des rapports sexuels moins fréquents, une diminution du nombre de partenaires sexuels et une réduction des comportements à risque par une utilisation accrue du préservatif et des contraceptifs. Alors, malgré ce qu'affirment les détracteurs, on ne trouve dans le programme français aucune incitation à quelconque sexualité ou à l'apprentissage de pratiques sexuelles. Et je ne saurais que trop vous inciter à insister pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir une éducation complète à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ainsi que des personnes de confiance pour répondre à leurs questions, certes parfois un peu farfelues, mais toujours légitimes.
Et oui, merci beaucoup Célie. C'est intéressant de voir l'historique de ce débat de société. Les mentalités évoluent, et c'est bien, mais il faut que les programmes d'éducation suivent. Et pour suivre l'évolution des mentalités et des pratiques, il faut faire des grandes enquêtes nationales.
Et justement, la dernière enquête de l'INSERM a été réalisée auprès d'environ 31 000 personnes âgées de 15 à 89 ans, issues de France hexagonale ainsi que Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion.
Une enquête qui commence avec des ados de 15 ans, c'est pas un peu tôt ?
Eh bien, figure-toi, c'est pas si jeune que ça, puisque l'enquête nous apprend que l'âge médian du premier rapport sexuel remonte un peu par rapport à la dernière enquête de 2006, puisqu'il est de 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes.
Pour rappel, l'âge médian, ça signifie pas l'âge moyen, mais bien l'âge au milieu de la gamme des réponses. Le premier rapport sexuel, il peut donc se faire beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux.
Oui, exactement, Pierre. Mais rapport sexuel ne veut pas forcément dire un pénis dans un vagin. Attention, si la pénétration vaginale est largement considérée, et peut-être à tort d'ailleurs, comme la principale représentation du rapport sexuel, l'enquête de l'INSERM a exploré quatre autres pratiques. D'abord, la masturbation. 83% des hommes déclarent se masturber en 1992, contre 93% en 2023. Quasiment tous les hommes. Chez les femmes, en revanche, on passe d'un très bas 42% en 92 à 73% en 2023, soit 3 femmes sur 4.
Ça, c'est de l'augmentation. Mais ça soulève une question. Est-ce que les femmes découvrent seulement maintenant qu'elles peuvent avoir une sexualité en solo ? Ou alors, elles sont simplement plus à l'aise pour le déclarer dans les sondages ? Bon, on n'aura pas la réponse, mais il existe bien un stéréotype de genre qui associe plus facilement l'homme au plaisir solitaire que la femme, ce qui freine encore les pratiques féminines.
Et figure-toi qu'il n'y a pas que la masturbation. Dans l'étude de l'INSERM, on parle aussi de cunnilingus et de fellation qui peuvent être soit pratiquées ou reçues. Cette fois, les chiffres sont très similaires entre les deux sexes. Ça concerne presque 9 personnes sur 10 en 2023 contre plutôt 7 sur 10 en 1992.
Ah, on dirait que les langues se délient. À propos de sujets plutôt tabous, est-ce que l'étude mentionne la pratique de la pénétration anale ?
Oui, exactement. D'ailleurs, qu'elle soit elle aussi réalisée ou reçue, presque 6 hommes sur 10, donc un peu plus de la moitié, et 4 femmes sur 10, un petit peu moins de la moitié, déclarent avoir pratiqué la pénétration anale, ce qui est presque 2 fois plus que dans les années 90.
Ah ouais, ça change quand même beaucoup par rapport à il n'y a pas si longtemps. D'après tous les chiffres qu'on vient de citer, on a l'impression que les Françaises et les Français expérimentent un peu plus qu'avant, non ?
Oui, c'est une des conclusions de l'enquête vis-à-vis de l'augmentation de la diversité des pratiques sexuelles.
Et quand on parle de sexualité, il est difficile de ne pas penser pornographie et comment celle-ci peut influer sur nos pratiques et nos représentations. Lila, aujourd'hui, tu nous partages ton humeur sur ce sujet.
Exactement, alors bienvenue dans cette chronique définitivement tout public. Aujourd'hui, on parle de porno, la team. Et plus exactement, de l'influence du porno sur la sexualité. Alors j'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer cette chronique. Je vais parler de l'industrie de la pornographie en tant qu'entité capitaliste et non pas du travail du sexe, que je respecte énormément. Alors, vous le savez sûrement déjà, mais l'industrie du porno, ça existe depuis un paquet de temps. Et avec l'arrivée d'Internet, son accessibilité a explosé. Alors préparez-vous, ça va cracher des stats. Selon l'ARCOM, en 2022, 37% des internautes françaises et français majeurs et 30% des internautes mineurs ont été exposés à des contenus pornographiques au moins une fois par mois. Toujours selon l'ARCOM, si on prend tout âge confondu, les hommes sont 2,5 fois plus nombreux, donc 53% vs 20% pour les femmes, à consulter des sites à caractère pornographique. Une stat un peu moins marrante, la part des mineurs fréquentant ces sites a considérablement augmenté en 5 ans, passant de 19% en 2017 à 28% en 2022. Le site le plus fréquenté est Pornhub, qui rassemble chaque mois 1,4 million des moins de personnes de 18 ans à travers le monde, en forte augmentation de 0,9 million depuis 2017. Mais Lila, qu'est-ce qu'on en a à faire que les ados aillent sur des sites de fesses Boys Will Be Boys ? Merci beaucoup de demander, hypothétique débile que j'ai inventé de toutes pièces. Bien que l'addiction au porno ne soit pas tout à fait reconnue comme un vrai trouble, il suffit d'ouvrir les yeux, juste pour constater les conséquences réelles de la surconsommation de porno. En particulier dans cet enfer qu'on appelle le patriarcat, non seulement l'industrie du porno alimente la misogynie et la confusion entre sexe et violence, alors quand ce média est consommé par les plus jeunes, ça doit pas nous étonner que leur vision de la sexualité soit terrifiante. Alors culture du viol, banalisation de l'inceste, déshumanisation des femmes, autant de choses qui sont représentées présenté et accessible de façon gratos sur des centaines de milliers de plateformes. Et ce contenu est consommé par des adolescents en pleine construction. Ça donne des catastrophes. Comme des jeunes garçons qui pensent qu'être violent et dominateur au lit, entre grosses guillemets, c'est trop sexy, ou des jeunes filles qui se persuadent qu'elles aiment des trucs qui ne leur plaisent pas pour faire comme les actrices et qui subissent des agressions sexuelles. Et je ne parle même pas des membres de la communauté queer, en particulier les personnes trans, qui se font fétichiser à mort par cette industrie. Alors, ça peut paraître très évident à dire, mais les professionnels du porno dans ces vidéos sont des actrices. Ils font semblant de prendre du plaisir. Plus sérieusement, et je m'adresse aux messieurs cisgenres surtout, soyez choux et renseignez-vous à des sources fiables, genre le partenaire en face de vous. Pour être des bêtes de sexe, ça évitera tous des moments très gênants où vous sortez des phrases du style « Waouh, retiens-toi de crier bébé », pendant que la personne en face se retient surtout d'appeler la police parce que vous êtes gênant. Plus sérieusement, l'influence de la pornographie sur la sexualité, c'est assez complexe en réalité. Certains et certaines s'en servent pour se renseigner sur des fantasmes ou des pratiques particulières qui elles pourraient vouloir essayer ou avoir envie de découvrir. Certains et certaines regardent une fois par an, d'autres 12 fois par jour. Et la chose à retenir dans tout ça, c'est que l'éducation sexuelle, c'est super important pour déconstruire la vision du porno et avoir une approche un minimum critique de l'intimité.
Merci beaucoup Lila pour ce billet d'humeur. Alors j'ai entendu parler, sans vous avoir de source, de nouveaux pornos, notamment produits par des femmes et pour des femmes. Peut-être que ça pourrait permettre d'amorcer un changement dans le milieu de la pornographie.
Mais d'abord, on va faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler d'abstinence et de grand âge. On écoute I Eat Boys Like You for Breakfast de Ida Maria.
Yeah. I eat boys like you for breakfast. Where's my salt and pepper now? Oregano, basil and thyme. And my tapatio.
La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
C'était I Eat Boys Like You for Breakfast de Ida Maria. Vous écoutez toujours le Labo des Savoirs pour cette émission spéciale Saint-Valentin. On parle de sexe en s'appuyant sur la dernière enquête de l'INSERM qui fait un état des lieux sur la sexualité des Françaises et des Français.
L'enquête fait le focus sur les représentations qui existent et qui structurent notre sexualité. D'ailleurs, en parlant de représentation, l'homosexualité est abordée dans l'enquête. Et selon toi, Pierre, comment les Françaises et les Français perçoivent l'homosexualité ?
J'imagine que l'acceptation n'est pas encore totale, mais bon, j'ose espérer que les chiffres sont en hausse, Florian ?
Oui, c'est le cas. En 2023, 7 femmes sur 10 pensent que l'homosexualité est une sexualité comme les autres, contre un peu moins de 6 hommes sur 10.
D'accord, donc dit autrement, hein, en 2023, 30% des femmes et plus de 50% des hommes ne pensent pas que l'homosexualité est une sexualité comme les autres. Peut mieux faire.
Oui, effectivement, dit comme ça, ça change un peu la perspective. Mais pour la première fois, il faut noter, les personnes sont actuellement plus nombreuses à accepter l'éventuelle homosexualité de leur enfant qu'à reconnaître que l'homosexualité est une pratique comme les autres. Comme quoi les mentalités changent petit à petit, et la preuve encore avec ces chiffres, plus d'une femme sur 5 et plus d'un homme sur 7 ne se considèrent pas comme strictement hétérosexuels en termes de pratique, d'identification ou d'attirance. Mmh. Et notamment en termes de pratique sexuelle, je pense à la question de la fréquence des rapports sexuels qui émerge souvent comme un critère ou même parfois un objectif.
Ouais, justement, on a des chiffres sur la fréquence des rapports sexuels au sein des couples. Les femmes déclarent en moyenne 6 rapports sexuels contre 6,7 pour les hommes au cours des 4 dernières semaines. Ce qui est en nette baisse par rapport aux enquêtes de 2006 et 1992.
Alors oui, mais encore une fois, ces résultats sont nuancés déjà par les investigateurs eux-mêmes. Déjà parce que c'est une moyenne sur toutes les tranches d'âge. Et d'autre part, la définition de rapport sexuel mériterait d'être mise à jour. Oui. Car probablement trop centrée sur la pénétration vaginale. Et enfin, cette supposée baisse de la fréquence des rapports sexuels n'est pas une exception française. Car cette tendance est observée dans plein d'autres pays occidentaux.
Et s'il n'y a pas de fréquence normale des rapports sexuels, on peut aussi se demander si l'acte sexuel en lui-même est obligatoire. Parce que parler de sexe en général n'empêche pas de parler d'absence de sexe. Julie, toi, tu vas nous parler d'abstinence.
Et oui, parce que le thème de l'émission étant les nouvelles pratiques en matière de sexualité, les non-pratiques en font aussi partie. Alors pourquoi ce sujet-là ? Eh bien parce que dans le rapport contexte des sexualités en France de l'INSERM, un des résultats qui a fait le tour des JT et des plateaux télé, c'est qu'en moyenne, les adultes auraient moins de rapports sexuels. Si on prend les données hommes et femmes confondues, environ 80% des personnes déclarent avoir eu une activité sexuelle dans les 12 derniers mois, alors que ce chiffre était de 86% en 2006 et de presque 90% en 1990. Donc effectivement, ça baisse, mais les auteurs et les autrices du rapport ne sont pas pour autant alarmés, contrairement à certains qui y voient déjà un coup dur pour le réarmement démographique, sollicité par un certain Emmanuel M. D'ailleurs, l'étude mentionne, comme tu viens de le dire Florian, que c'est un phénomène qui se produit dans d'autres pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Bref, pour revenir à notre sujet, en regardant le rapport, je me suis demandé, mais qui sont ces 20% qui déclarent ne pas avoir eu de rapport sexuel dans les 12 derniers mois ? Et je me suis rappelé que j'avais acheté un livre en lien, il y a quelques mois, qui s'intitule « Nos corps abstinents » d'Emmanuel Richard. L'occasion était trop belle. Je précise quand même que ce livre n'est pas un ouvrage scientifique, même s'il était passionnant.
Et est-ce que dans ces 20% de l'étude de l'INSERM, ces gens se considèrent comme abstinents ?
Ben ça, on ne le saura malheureusement jamais. D'ailleurs, on ne sait pas ce que recouvre le terme de rapport sexuel dans l'étude de l'INSERM. Toutes les études ne définissent pas ou ne posent pas de périmètre ni ne demandent aux participants ou participantes ce qu'ils ou elles entendent par rapport sexuel. Deux études britanniques de 2019, l'une menée par Peter Weda et Catherine Mercer et l'autre par Wellings et collègues, pose, selon moi, une définition complète. Il s'agit de rapports, soit oraux, vaginaux ou anaux. Comme ça, toutes les sexualités sont incluses, et pas seulement les pénétratives. Mais ces études sont très quantitatives et assez froides, dans le sens où elles nous en apprennent peu sur les raisons qui expliquent la baisse, voire l'absence d'activité sexuelle.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est inclus dans les 20% de personnes sans rapport sexuel dans les 12 derniers mois ?
Bien, une première raison de faire partie de ces 20%, c'est tout simplement de n'avoir jamais eu de rapport sexuel, que ce soit choisi ou contraint. Une autre raison pourrait être d'être asexuel. Je prends ici la définition de Weiner, un chercheur américain qui a fait un tour de la littérature en sociologie en 2024 à ce sujet. L'asexualité est une identité sexuelle qui renvoie au fait de ne pas ressentir de désir ou d'intérêt sexuel, ce qu'on appelle la libido, ou d'en ressentir très peu. Malgré tout, les personnes asexuelles peuvent aimer au sens romantique et avoir des relations, qu'on appelle platoniques. D'ailleurs, l'absence de relations sexuelles ne signifie pas forcément absence d'affection physique. C'est l'exemple de Dalva dans le livre « Nos corps abstinents » d'Emmanuel Richard. La compagne de Dalva est asexuelle, ce qui n'empêche pas le couple d'avoir beaucoup de gestes de tendresse et d'être très tactile. Une troisième raison de faire partie de ces 20% n'ayant pas eu de rapport sexuel dans les 12 derniers mois, c'est d'être abstinent. Sans être asexuel. L'abstinence peut être choisie ou subie. Ça veut dire que ça peut regrouper des personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels, plus ou moins fréquemment, et qui traversent des périodes sans rapport sexuel, avec un désir toujours présent ou avec un désir perdu, qui reviendra un jour ou non. Et ça peut concerner des personnes seules comme en couple. Fait intéressant, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, l'augmentation de l'inactivité sexuelle toucherait davantage les personnes ayant un ou une partenaire, qu'elles soient mariées et ou qu'elles vivent ensemble. Ce qui n'est a priori pas le cas d'après l'étude de l'INSERM.
Alors c'est vrai que c'est une petite particularité de la société française, parce que jusqu'à pas plus tard que cette année, on pouvait encore prononcer un divorce sur la base d'absence de relations sexuelles au sein du couple, car c'était reconnu comme une faute. Donc ça pouvait bien sûr être utilisé comme menace pour faire pression sur le ou la partenaire, dans le sens, on fait l'amour, sinon je demande le divorce. Ça, c'est une drôle de notion de consentement, je trouve.
Oui, et c'est que le 23 janvier 2025, donc très récemment, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il était illégal de prononcer un divorce pour faute dans le cas d'un refus de relations sexuelles. Le devoir conjugal est donc mort et enterré.
Et oui, et pour revenir à nos abstinentes et abstinents, une des études britanniques dont j'ai parlé tout à l'heure, celle de Peter Weda et Catherine Mercer de 2019, rapporte que la majorité des personnes ayant eu des rapports auparavant, mais étant inactives sexuellement, sont satisfaites de cet état. Cette étude discute aussi des facteurs associés à l'inactivité sexuelle, comme avoir une religion, être une personne racisée, être une personne sans emploi, être une personne en surpoids ou de petite taille. En Grande-Bretagne, si on a une de ces caractéristiques, ou si on en cumule, on a davantage de chances d'être sexuellement inactif ou inactive. Mais ce qu'il manque dans ce type d'études quantitatives, selon moi, c'est l'agentivité des personnes. Sont-elles actrices de leur inactivité sexuelle ? Est-ce un choix ou est-ce subi ? C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre « Nos corps abstinents » d'Emmanuel Richard. Je rappelle que ce livre n'est pas l'aboutissement d'un travail scientifique, mais je souhaitais en parler pour la pluralité des abstinences qu'il met en lumière. Ce livre, c'est un résumé des entretiens de 37 personnes avec lesquelles l'autrice a pu échanger. Et là, les raisons de l'abstinence peuvent être multiples. Par manque de possibilités, à cause d'un deuil, via la prise de médicaments, comme les anxiolytiques ou les antidépresseurs, qui font diminuer la libido, suite à une rupture amoureuse douloureuse, un rapport à son corps difficile avec des troubles du comportement alimentaire, suite à des violences sexuelles, incestes, viols, en réaction à l'injonction au désir ou aux normes de performance supposées, à cause d'un travail trop prenant, le fait d'être en relation à distance, suite à des difficultés sexuelles comme le vaginisme ou l'éjaculation précoce, à avoir un âge avancé, notamment chez les femmes, pour qui ne plus être désirante ou désirable est un soulagement pour certaines, ne plus être perçue comme objet, mais une peur pour d'autres.
Ces témoignages sont hyper importants et j'ai un peu l'impression qu'on peut un peu tous et toutes se retrouver à un moment de notre vie en tout cas.
Tout à fait, et c'est ça qui est génial. Toutes ces personnes interrogées vivent des abstinences différentes. Elles les qualifient de plus ou moins longues selon leur vécu, de quelques semaines à plusieurs années, et cela peut être chronique ou ponctuel. Beaucoup parlent également de ce qu'elles ont gagné pendant ces moments d'abstinence, ce que ça leur a permis de faire, notamment se recentrer sur soi, prendre soin de soi, mieux se comprendre et analyser ses besoins et ses limites, ce qu'on attend d'une relation amoureuse et ou physique, avoir du temps pour d'autres activités, etc. Enfin, je conclue en vous partageant un dernier élément. Une chose que j'ai trouvée intéressante à la lecture de ces témoignages, c'est la distinction entre sexualité solitaire et sexualité partagée. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'activité sexuelle partagée qu'on ne se masturbe pas. Et à ce sujet, je recommande le livre « Jouissance Club ».
Merci beaucoup, Julie. C'est important de briser cette injonction au sexe qui pèse sur nous, car comme tu l'as dit, l'important, c'est la satisfaction. Et d'ailleurs, d'après l'enquête INSERM en 2023, 45% des femmes et 39% des hommes se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle.
Et il s'agit d'une moyenne sur toutes les tranches d'âge, mais il est intéressant de voir que la satisfaction est plus élevée sur les tranches d'âge plus jeunes et diminue au cours du temps.
Et en tout cas, même si la fréquence des rapports baisse, la satisfaction reste globalement stable par rapport aux dernières enquêtes. Donc même si les pratiques évoluent, le plaisir, lui, reste le même.
Et en parlant de plaisir, Florian, quoi de mieux qu'une bonne musique ? On écoute maintenant « More Than a Woman » de Aaliyah.
Des sciences au labo des savoirs.
Vous venez d'écouter More Than a Woman de Aaliyah et nous sommes de retour sur le Labo des Savoirs pour une émission centrée sur la sexualité des Françaises et des Français.
Alors, pendant la pause musicale, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur dans nos chiffres. On a vraiment interrogé les gens de 89 ans sur leur sexualité ?
Eh bien, la vieillesse n'empêche pas d'avoir des rapports sexuels, Pierre. L'enquête dit qu'un peu moins d'une femme sur deux et un peu plus d'un homme sur deux, entre 70 et 79 ans, déclarent avoir eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois et presque la moitié en sont satisfaits, voire très satisfaits.
Ok.
C'est un exemple parmi d'autres. Il y a vraiment beaucoup de graphiques très intéressants dans le rapport de l'enquête. C'est le sujet dont Nolwenn voudrait parler aujourd'hui. On l'écoute.
Sexualité chez les jeunes, position préférée des jeunes, fantasme inavoué des jeunes. C'est bien beau tout cela, mais comment se projeter dans sa sexualité quand elle est invisibilisée chez les personnes âgées ? Ayant la ferme intention de continuer à sexer dans mes vieux jours, je me suis penchée sur ce sujet tabou pour essayer de mieux comprendre nos aînés et leurs désirs. Alors c'est parti pour un voyage chez Pipoumou et les Super Old Friends afin de démystifier si âge avancé et sexualité riment vraiment avec incompatibilité. Déjà, mettons à la poubelle l'idée reçue que les relations intimes, incluant les rapports sexuels, sont inexistantes chez les personnes âgées. Le chercheur Philippe Thomas et son collègue soulignent qu'en Occident, la majorité de nos aînés sont satisfaits de leur vie sexuelle, d'après leur étude de 2021, intitulée « Sexualité et intimité des personnes âgées ». Mais alors, pourquoi ce tabou ? En partie, car la vision de la société est encore figée autour de nombreux stéréotypes, comme le rappelle Eshmaway dans sa recherche sur le sujet en 2020, Advanced Age, Cognitive Decline and Sexuality in Healthcare Institutions. À cela vient s'ajouter la perception de soi qui change suite au remodelage du corps. Dans cette même étude, l'auteur parvient à distinguer les obstacles à franchir pour se défaire de ce tabou, réajuster notre vision de la sexualité lors du grand âge. Le principal étant la difficulté à établir un environnement de confiance permettant aux personnes âgées de s'exprimer avec dignité et aisance sur leurs besoins, que ce soit auprès des soignants ou de leur famille, dans le cas où la personne ne vit pas seule. Le second est le manque de personnel soignant et de thérapeutes spécialisés sur le sujet, sur l'accompagnement des pratiques sexuelles sous l'influence des troubles et inconforts qui viennent avec le vieillissement. Et ces troubles et inconforts influençant sur l'épanouissement sexuel des aînés, Daniel Bécaplan a su en faire une liste assez éclairante sur le sujet dans son article de 2023, Rapports intimes et personnes âgées, qui vient compléter l'étude de Eshmaway. En s'appuyant sur ces deux recherches, on peut catégoriser les facteurs affectant la sexualité des aînés. Déjà, il y a les maladies, qu'elles soient physiques comme le diabète ou l'arthrite, ou bien psychiatriques. Les auteurs parlent ici de diverses démences qui affectent la capacité de discernement et de consentement. Ensuite, sont énoncés les changements hormonaux avec la diminution des niveaux d'hormones sexuelles qui peuvent provoquer des incommodités lors des relations sexuelles. Par exemple, lors de la ménopause, des changements physiques sur les organes génitaux s'opèrent. La vulve va diminuer de taille et le vagin va s'assécher et s'atrophier. Pire encore, le sein clitoris, organe uniquement dédié au plaisir sexuel, va lui aussi se rétracter. La libido peut diminuer à cause des changements physiques liés au remodelage du corps et à l'évolution de l'apparence, ou bien à cause de certains médicaments qui diminuent le désir sexuel et provoquent des troubles érectiles. Aussi, le lieu de vie de la personne âgée peut avoir une influence directe sur sa sexualité. Dans le cas où la personne vit en EHPAD ou avec ses proches, cela limite la possibilité d'établir des moments intimes avec une ou un éventuel partenaire. Enfin, j'en ai parlé plus tôt, les préjugés sociaux et l'attitude des soignants et des proches sur le sujet de la sexualité des aînés influencent l'épanouissement sexuel des concernés. Mais alors, face à ces entraves au bien-être sexuel des aînés, quelles solutions et alternatives pour les soignants et les proches ? Et pour les aînés ? Il faut déjà comprendre que dans le cas des institutions comme les hôpitaux ou les EHPAD, les soignants sont confrontés à un défi, celui de pouvoir instaurer un environnement favorable à la sexualité des patientes et des patients, tout en assurant leur sécurité face à des comportements d'agression sexuelle. Une des solutions qui est proposée par Eshmaway est d'encourager les soignants et les proches à suivre des formations spécifiques et approfondies sur le sujet de la santé sexuelle des aînés. Une difficulté s'ajoute, car cela implique aussi que les soignants devront aussi être capables d'identifier la capacité de consentement des personnes âgées si elle est altérée. Dans ce cas, l'auteur recommande de s'entourer d'un psychiatre spécialisé. Enfin, pour contourner les problématiques liées aux troubles physiques dans les rapports sexuels des aînés, certains trouvent leur compte dans l'alternative aux rapports intimes. C'est Daniel B. Kaplan qui l'explique dans son étude de 2023. Effectivement, avec le temps, les relations sexuelles peuvent devenir moins fréquentes ou s'arrêter. Ainsi, les rapports intimes prennent le pas sous une autre forme, privilégiant les caresses, les massages, les baisers ou les expressions verbales d'affection. Et tout cela permet d'exprimer la proximité, l'attention ou l'attachement à leur partenaire. À la lecture de ces études, au final, le sexe dans nos vieux jours peut paraître franchement moins fun qu'à nos 20 ans. Mais au final, la recherche sur ce sujet a de beaux jours devant elle, vu le nombre de pistes à creuser pour construire une vision plus bienveillante et moins stéréotypée de la sexualité de nos aînés. Et surtout, il ne tient qu'à chacun chacune de rester à l'écoute des besoins de notre partenaire dans l'intimité, et ce, qu'on ait 20 ou 80 ans.
Et merci beaucoup Nolwenn. J'étais un peu dubitatif avant la chronique, mais il semblerait que le grand âge ne soit pas un facteur limitant du plaisir sexuel.
Et oui, parce que la vraie question, on en parlait un peu plus tôt, c'est la satisfaction. L'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, définit d'ailleurs en 2006 la santé sexuelle comme, préparez-vous, c'est un petit peu long, un état de bien-être physique, mental et social qui requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence.
Waouh ! Donc, pour le dire plus simplement, en sexe, tant que vous respectez la loi, que vous restez libre de vos choix, que vous ne blessez ou ne forcez personne, que vous soyez plutôt sage ou plutôt coquin et coquine, amusez-vous !
Oui, en fait, c'est super bien résumé, Pierre, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a réussi à t'éloigner d'American Pie et se rapprocher un peu plus de la réalité. Il est bientôt temps de conclure cette émission, mais avant, Pierre, tu souhaitais proposer un tour de table avec nos merveilleux et merveilleuses bénévoles.
Et oui, et donc j'ai une question à vous poser. Par rapport à l'éducation sexuelle, quels souvenirs en gardez-vous de l'école ? Déjà, vous souvenez-vous d'avoir eu des cours d'éducation sexuelle ? Julie ?
Alors moi, j'ai vraiment des souvenirs très épars. Je pense qu'ils n'étaient pas hyper fournis, les cours. Je me rappelle juste à deux moments, je pense. Donc c'est le moment est identique, mais à deux temporalités de ma vie. Une fois au collège et une fois au lycée, où littéralement, je pense qu'on avait la prof ou le prof qui avait une banane en main et qui nous apprenait du coup à dérouler un préservatif. C'est tout ce que j'ai comme image et tout ce que j'ai retenu de mes cours d'éducation sexuelle. Donc c'est un peu dommage.
Ouais, moi alors c'était un peu particulier parce que j'étais dans un collège catho. Donc wow. Ouais. Et donc moi les souvenirs que j'ai d'éducation sexuelle, c'était en SVT. Ça a été le cadre de seulement un petit cours, deux petits cours. C'était en troisième. Et littéralement c'était vous allez avoir vos règles. Force.
Et c'est
tout. Et c'est un peu dommage parce que moi perso je suis trans et je vais bientôt commencer une transition hormonale. Du coup ça me sert à rien de savoir que je vais avoir mes règles parce que je vais arrêter de les avoir.
C'est clair.
Donc coup dur, tu vois. Mais sinon rien sur je sais pas le consentement.
Oui, des trucs importants.
Les trucs importants.
En plus des règles.
Et même les trucs de protection, c'était surtout axé sur on va dire le phallus. C'était genre attention, faut mettre une capote. Hein. Mais rien, par exemple, sur, la pilule, le stérilet.
Ouais,
c'était vraiment, vraiment nul.
Ok. Et toi, Célie ?
Moi, je pense que je suis un peu comme Julie. C'est le déroulage du préservatif. Mais après, pas beaucoup plus, à part les cours de biologie sur le fonctionnement des règles et de l'ovulation, des hormones. Ça s'arrête là.
Okay.
Après, moi, j'ai des nouveaux souvenirs, parce que c'est moi qui viens dans les classes parler de ça.
Trop
du
bien.
Coup, ça remplace un peu ce qui a manqué avant. Et je suis contente de pouvoir le faire.
Et ça, c'est trop cool. Et Lila, tu voulais dire autre chose ?
Oui, parce que je viens de me rappeler d'un truc. dans mon lycée, du coup, après le collège, on n'avait pas des cours d'éducation sexuelle, mais c'était heure de découverte, où c'était diverses personnes qui venaient de plein d'instituts religieux différents qui parlaient de l'intimité. Sauf que c'était des trucs extrêmement bizarres où genre on séparait les filles et les garçons et on demandait qu'est-ce que tu penses du genre opposé ? Est-ce qu'il t'attire ? Est-ce que tu peux remplir cette feuille de questions et me dire si tu as déjà eu des fantasmes sur un des camarades de classe ?
D'accord.
Je ne plaisante pas, c'est vraiment le cas. Donc ouais, Okay. N'allez pas dans les instituts catho pour avoir des cours d'éducation sexuelle.
Et avec l'actualité récente sur les questions de violence sexuelle à l'école, c'est intéressant.
Je me permets d'intervenir, Sophie, à la technique de cette émission. Moi, mes souvenirs sur l'éducation sexuelle, je sais que j'en avais eu en CM2, où on avait aussi séparé les garçons et les filles dans des pièces différentes, et on leur avait montré des films différents, puisque à la cour de récré, on avait débriefé ensemble. Mais je me souviens qu'au lycée, on avait eu 2 heures de banalisé en SVT, et il y avait eu une vraie intervention, puisqu'on était reparti avec des préservatifs masculins et féminins, et j'avais appris à cette occasion qu'il existait des préservatifs féminins, je ne savais pas, et des pads, des protections pour des serviettes hygiéniques qui étaient d'une qualité vraiment approximative. Mais voilà, on avait découvert les pads et les garçons avaient pu en avoir aussi s'ils voulaient savoir à quoi ça ressemblait. Et je sais que j'ai gardé cette espèce de kit préservatif masculin, féminin et protection hygiénique dans ma chambre cachée pendant très longtemps en me disant au cas où il m'arrive un truc, j'ai ça.
Et toi, Florian ?
Bien, c'est lointain, c'est un peu flou, et d'ailleurs je pense que je suis biaisé parce que je fais une sorte d'amalgame entre les cours d'éducation sexuelle et les cours de biologie sur la reproduction. Et c'est marrant parce que je pense qu'on mélange ça, et d'ailleurs peut-être dans l'enseignement on a tendance à mélanger ça pour que ce soit peut-être plus simple à l'expliquer. J'ai des vagues souvenirs où on nous expliquait, c'était très centré sur la pénétration vaginale, le garçon a une érection, la fille on sait pas ce qu'elle fait. Il pénètre le vagin, il éjacule, et généralement ça peut conduire à la production d'un enfant. Donc c'était, j'ai des souvenirs assez, ça rend peut-être pas honneur aux vrais cours que j'ai eu, mais dans mon souvenir c'est quand même très ciblé là-dessus. Et bon, j'ai pas des souvenirs absolument géniaux sur ces cours-là, surtout que ça n'explorait absolument pas le désir, ça parlait pas de fantasmes, ça parlait pas de tout ce qu'il y a autour de la pénétration vaginale, parce que j'ai l'impression que c'était quand même très centré là-dessus. Donc non, j'ai pas un souvenir mémorable. Moi, j'avais une question. On n'a pas parlé de sexualité numérique. Alors, pour le coup, s'il y a bien un truc qui est nouveau par rapport aux années 80-90, c'est bien la place du numérique. Ouais. Alors, quand je dis numérique, je pense un peu nos sites de rencontres, déjà, qui prennent une grande place un petit peu dans nos manières de séduire et de rencontrer les gens, mais aussi les réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, dans votre entourage, vous avez l'impression que ça prend vraiment plus de place, que ça envahit ou que ça aide ? C'est genre plutôt un point de vue positif ou négatif ou un peu mélange ? Lila ?
Alors moi j'ai plutôt l'impression que ça aide. Alors personnellement j'utilise pas de site de rencontre parce que j'aime pas ça, mais je sais que j'ai des amis qui l'utilisent, et notamment en fait pour les personnes queer ou qui sont par exemple polya, c'est vachement plus simple avec les sites de rencontre de rencontrer des personnes qui recherchent les mêmes choses. Du coup ça évite des situations très gênantes, donc pour des communautés particulières ça peut être super cool.
Ouais,
en fait.
Carrément, parce qu'on entendait beaucoup.
Moi, j'allais dire, ça n'a pas changé, moi, ma manière de relationner aux autres. Mais en tout cas, dans mon entourage, effectivement, j'ai l'impression que ça aide, notamment des personnes qui auraient pas forcément, qui seraient pas très à l'aise de discuter avec des gens, voilà, primo rencontrés dans la vie de tous les jours, enfin voilà, dans un bar ou autre. J'ai l'impression qu'il y a des gens, quoi, qui sont plus à l'aise de développer d'abord en ligne, numériquement, sans avoir peut-être le stress, la pression des a priori, ce genre de choses, qui par la suite, du coup, arrivent à rencontrer les personnes dans la vraie vie.
Oui, Célie.
Moi, je pense aussi que ça peut aider, notamment pour les relations à distance, parce que avec les voyages, les études, on rencontre des gens, et puis ça peut déboucher sur des choses, mais on n'est pas, on n'habite pas au même endroit, comme c'était peut-être plus développé avant, et donc favoriser la communication via le numérique peut favoriser des relations à distance.
Ah, carrément. Julie, tu voulais rajouter un truc ?
Oui, en fait, je me suis rappelé quelque chose en entendant parler Célie de relations à distance. Un autre avantage que j'ai déjà entendu, c'est de pouvoir justement tomber ou rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans nos cercles proches, de pouvoir rencontrer voilà des gens qui ont un métier par exemple qui n'a rien à voir avec celui qu'on fait ou qui n'est pas du tout issu du même milieu, enfin voilà, donc ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer.
Eh bien, merci à tous et à toutes pour ce débat. Pour information, dans cette émission sur la sexualité, nous n'avons pas abordé les sujets des IST, d'identité de genre, ni de violence ou d'agression sexuelle. Et beaucoup de ces sujets sont traités dans l'enquête de l'INSERM. Vous avez toutes les sources disponibles sur le site du Labo des Savoirs.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Célie, Lila, Nolwenn et Julie pour leur chronique. Merci à Nantes Université de nous avoir accueillis dans leur BU Sciences. Vous pouvez retrouver toutes les sources, comme Pierre l'a dit, sur le site du Labo des Savoirs ou en description du podcast. Une émission préparée et animée par Pierre Martin et Florian Martin, réalisée par Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
City. They call him Kid Caffeine.